Alors, je vais revenir juste sur une chose pour la préciser. Ce verset 44 s'assure de vin comme des gouttes de sang. Donc, c'est une pathologie qui est connue, qui s'appelle l'hématidrose. Et donc, l'hématidrose, c'est la sécrétion de sang donc par les glandes sudoripares. Et c'est causé plutôt par un état d'angoisse très avancé. Donc c'est quelque chose qui est connu de la médecine et dont on peut retrouver des traces ailleurs. Je n'ai pas pris les références, mais j'avais vu qu'il y avait des références, notamment dans la littérature classique. Donc c'est pas Luc qui en rajoute, quoi. Alors parlons de la prière de Jésus. On voit que Jésus s'éloigne des apôtres, comme il l'a fait jusqu'à présent, à chaque fois qu'il voulait prier, il se met à l'écart. Cependant, cette fois-ci, il y a une précision. Il reste à un jet de pierre. Donc, ça veut dire que sans nécessairement entrer dans l'intimité de la prière de Jésus, Pierre, Jacques et Jean n'en demeurent pas moins quand même suffisamment à proximité de Jésus pour pouvoir l'observer. Il faut quand même s'endormir, ouais. Oui, on est d'accord. Mais ils sont suffisamment prêts pour pouvoir entrer quand même dans observer en tout cas Jésus. Et notamment, qu'est-ce qu'ils vont voir avant de s'endormir? Ils vont voir qu'il est à genoux. Et c'est pas une position commune. Aujourd'hui, pour les chrétiens, c'est une position de prière et toutes les images pieuses. Je me rappelle d'une image de ma grand-mère, on voyait un petit enfant à genoux devant son lit en train de faire sa prière. Chez nous, c'est des images classiques qui signifient la prière. Voilà. Mais concrètement, au temps de Jésus, ce n'est pas la position de la prière. La position de la prière, c'est plutôt la position debout. Et donc, être à genoux, c'est la position de celui qui implore. Donc à ce moment-là, la prière de Jésus, c'est une prière qui va implorer d'une manière intense à cause de cette angoisse intense qui est la sienne. Et donc, c'est assez rare. Et ça n'empêche pas Jésus de s'adresser à Dieu suivant le vocable qu'il a l'habitude d'utiliser, qui est celui de Père. Comme il l'a d'ailleurs enseigné aux disciples. Notre Père. Le Notre Père, c'est au chapitre 11. Et on voit dans cette prière, parce que nous on a cette chance de pouvoir être à moins d'un jet de pierre, puisqu'on entend ce qui se dit, et on voit que Jésus ne fuit pas sa mission de fils. Bien sûr, c'est l'heure de l'accomplissement, un accomplissement douloureux de la volonté du Père, mais il ne va pas le fuir. Ça n'empêche pas d'exprimer son désir d'éviter une coupe de souffrance et de raillerie, mais il ne fuit pas cette mission. Alors des fois, la question est posée de dire, mais si les apôtres dormaient, comment est-ce qu'ils peuvent savoir ce que Jésus a dit? Donc là, on ne va pas faire le livre des Actes des apôtres, mais au début du livre des Actes des apôtres, il a expliqué que Jésus, après sa résurrection, enseigne tous les jours aux disciples. Et donc, on pense que sur certains points des évangiles, soit la Vierge Marie a pu raconter des choses quand elle était présente, soit c'est Jésus lui-même qui, pour édifier ses disciples à la lumière de la résurrection, peut leur raconter cette prière-là. Et on peut tout à fait imaginer que Jésus raconte qu'il avait cette angoisse terrible pour justement édifier les apôtres. Vous aussi, vous allez aller vers des angoisses terribles. Et surtout quand on sait comment est-ce que les apôtres vont mourir, quoi. Mais restez fidèles à la mission. Donc la prière de Jésus se déroule en trois temps. Trois temps qui permettent à Jésus d'encourager ceux qui se sont endormis, leur demander de rester vigilants, leur demander de prier, parce que c'est ce qu'ils vont devoir faire pendant son absence. Donc on voit comment est-ce que Jésus, jusqu'au dernier moment, a le souci de former les premiers pasteurs de son Église. Mais voilà que les opposants de Jésus arrivent, avec Judas à leur tête, et donc Judas s'approche de Jésus pour l'embrasser. Et ce n'est pas quelque chose d'inhabituel pour le coup. Embrasser le maître pour un disciple, c'est reconnaître l'autorité du maître. Mais c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand Judas vient pour embrasser Jésus, d'ailleurs on ne sait pas s'il l'a vraiment embrassé ou pas, en tout cas, il va dans ce mouvement-là, Et Jésus lui dit donc, c'est ainsi que tu livres le Fils de l'homme. Et en réalité, c'est l'hypocrisie qui est révélée à ce moment-là. En faisant semblant de vénérer le maître ou de reconnaître son autorité, Judas va le livrer à la calomnie et aux injures. Et cette question-là que je relevais de Jésus, hein, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, c'est pas une question anodine. Je pense que c'est un peu un avis personnel, mais je pense que c'est le dernier aparté que fait Jésus à Judas, le maître aux disciples, pour lui ouvrir une porte. Parce que Jésus va pas dire « c'est comme ça que tu me livres ». Il va dire « c'est comme ça que tu livres le Fils de l'homme ». Et Judas, c'est un disciple. Donc, c'est-à-dire qu'il a écouté les enseignements de Jésus. Et donc, il sait que c'est le titre que Jésus utilise pour annoncer l'avènement du royaume de Dieu. Et peut-être que Jésus a même l'idée que cette parole est une parole d'espérance pour Judas, dont il connaît les tourments intérieurs, et notamment ceux qui vont suivre la livraison, la trahison, parce que, si vous vous rappelez bien, au chapitre 5, verset 24, la première fois que Jésus va utiliser le terme de « fils de l'homme », c'est associé au pardon des péchés. Le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Donc c'est pour ça que je pense que cette question que Jésus pose à Judas, elle n'est pas là avant tout pour relever la trahison que pour ouvrir une porte d'espérance à Judas. Le pardon des péchés est possible parce que c'est le Fils de l'homme. Et on voit que face à cette situation, eh bien, les disciples ils sont pris de court. Hein. Déjà, ils découvrent qui est le traître, c'est Judas, l'un des leurs. Ils veulent répondre à l'épée par l'épée, ce que Jésus va leur interdire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire quand il parlait de se présenter face à l'adversité dans son discours. Et voilà, il dit clairement, après sa prière, qu'il est prêt à accomplir la volonté du Père, et donc qu'il est prêt à boire la coupe des souffrances. Et on voit, à la suite, qu'il n'y a plus qu'un seul apôtre qui est mentionné, c'est Pierre. Et Pierre, il suit Jésus à distance, c'est écrit. Et à partir de ce moment-là, tout le récit se focalise sur Pierre. Il n'y a plus que Pierre qui existe, en fait. Les personnages qui vont interroger Pierre, ils n'ont pas de prénom. Ils n'ont même pas d'origine. Ils ne prononcent même pas le nom de Jésus. C'est « celui-là aussi était avec lui. Tu es l'un d'entre eux. » Mais il n'est jamais question de Jésus directement. Il y a un seul prénom qui est présent, c'est celui de Pierre. Et donc, le fait qu'il n'y ait qu'un seul prénom, Pierre, qui soit mentionné, ça donne encore plus de force au nom de Jésus lorsque ce nom arrive. Et ce nom, il arrive lorsque Jésus pose son regard sur Pierre. Alors, c'est même pas Jésus d'ailleurs, c'est le Seigneur. C'est au verset 61. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors, Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Donc, à ce moment-là, Pierre a renié Jésus comme Jésus l'avait prophétisé, très bien. Mais comme pour Judas, je crois que le regard de Jésus, ce n'est pas un regard accusateur. Il n'est pas en train d'accuser Pierre, ou en train de dire « tu vois, je te l'avais bien dit ». Mais c'est plutôt un appel à la confiance, je pense. Parce que si la parole prophétique de Jésus s'accomplit sur le reniement de Pierre, alors la parole prophétique de Jésus quant à la venue et à la du règne de Dieu et à la résurrection, elle va s'accomplir aussi. Donc ce dernier regard que pose le Seigneur sur Pierre, c'est à nouveau un regard d'espérance, un regard d'encouragement. Et peut-être même qu'à ce moment-là, parce que Pierre c'est lui aussi un apôtre et qu'il a écouté les enseignements de Jésus, peut-être qu'il peut penser à la question de la brebis égarée, cette parabole. Mais juste après, donc on voit, il sort, il pleure, et verset 63, les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Et donc ça y est, toute la question prophétique dont on parlait, d'un seul coup, elle est bafouée par les gardes. Ils vont décider de rouer de coups Jésus, de l'insulter, de se moquer de lui, et ils vont lui demander de faire le prophète. Et là, il y a un contraste énorme. Nous, on vient juste de lire que la parole prophétique de Jésus vient de se réaliser pour le moment de Pierre, On attend qu'elle se réalise pour la résurrection, et aussitôt, on a les hommes qui gardent Jésus, qui, eux, viennent blasphémer cette question de la prophétie. Et en même temps, à nouveau, il y a quelque chose de paradoxal, en attaquant Jésus sur l'aspect prophétique, eh bien, ils font l'inverse de ce qu'ils souhaitent faire, puisqu'ils vont désigner Jésus, ou du moins ils vont légitimer la dimension prophétique de Jésus. Parce que Jésus est un vrai prophète. Pourquoi ? Parce que Jérusalem le rejette. C'est ce qu'il avait dit au chapitre 13, verset 34. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. » Je vous propose après qu'on lise les versets 66 à 71.
« Lorsqu'il fit jour, il se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on amena Jésus devant le Conseil suprême. Ils lui dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. » Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage ? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. »
Alors j'ai mis les derniers versets du chapitre à part, parce qu'ils auraient presque pu être finalement dans le chapitre suivant. C'est le début du jugement de Jésus. Et donc l'objet de la comparution de Jésus devant le Sanhédrin, c'est l'identité même du Christ. Et lui dire, si tu es le Christ, dis-le-nous. Donc cette identité, qui s'est définie aux yeux et aux oreilles de ses disciples, aux yeux et aux oreilles des foules, tout au long de son ministère public, elle est désormais dans la bouche du Sanhédrin. J'ai pas redéfini le Sanhédrin, parce que c'est écrit, le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, donc le conseil suprême des Juifs, et donc c'est dans leur bouche, mais c'est pas pour reconnaître en Jésus le Christ, mais pour pouvoir le condamner. Donc le lecteur, bien sûr, nous, on connaît les réponses à la question du Sanhédrin. On le connaît depuis le début, parce que Luc, dès son préambule, parle de Jésus qui est le Christ, le Messie. Et puis, on a, pour l'instant, vu aussi tous les enseignements que Jésus donne à cet égard. Mais là, devant le Sanhédrin, c'est un dialogue de sourds qui va s'engager. Parce que la question « Es-tu le Christ ?», Jésus va répondre qu'il est le Fils de l'homme. Et il va être accusé, non pas d'être le Christ, non pas d'être le Fils de l'homme, mais de se prendre pour le Fils de Dieu. Ce qui est considéré comme un blasphème et qui donc mérite la mort. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce dialogue, qui apparaît comme un dialogue de sourds, va mettre en avant trois titres qui sont effectivement des titres propres à Jésus. Et qui définissent son identité et sa mission. Il est bien le Christ ou le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu pour sauver son peuple, pour établir un règne de paix, et il le fait à la fois en tant que fils de Dieu, puisqu'il l'est par sa nature, et en tant que fils de l'homme, et on a vu que fils de l'homme, ça peut vouloir dire deux choses, soit c'est un quidam, c'est-à-dire que c'est comme tous les hommes sont fils de l'homme, ou alors fils de l'homme en tant que référence au livre de Daniel, et c'est-à-dire le Messie.